The vibes.
R2 tout le monde. Distant islands, spectral cities.
On a fait dans l'ordre des anciens vers les jeunes hommes pour respecter la tradition. Mais c'était bien, je trouve que Jet nous a fait entrer en douceur dans une époque. Et je suis quand même très content de vous avoir tous les deux. Moi, je pense que c'est une chance aussi d'avoir ces deux univers-là. Tu as déjà commencé, Jet, en fait, à ouvrir à la question un peu complexe des formes, des styles. Donc on va continuer aussi avec Chuck sur un voyage dans ton écriture artistique.
Moi, mon écriture... Bonjour, tout le monde. Merci à Olivier. Il vous a déjà dit un peu notre lien de parenté. Merci à Chel Lachek de nous accueillir aussi. Et puis, bienvenue. Après un passage aussi riche, je vais essayer de remonter à la surface aussi un peu, quoi. Voilà. Alors, oui, graffiti, trace, mouvement. Voilà. Enfin, pas facile tout ça à expliquer, mais bon, on va essayer de vous résoudre tout ça à la façon dont j'ai voulu vous résumer les choses. La première image que vous avez ici, en fin de compte, pour moi, elle est marquante, puisque c'est un dessin de ma grand-mère. Qui a beaucoup compté dans ma vie, et voir c'était mon potomitan en créole, qui veut dire le totem africain, voilà. Et tout simplement parce que moi, j'ai été abandonné par mes parents. Et du coup, après la DAS, ma grand-mère est venue me récupérer en 1973 à Pointe-à-Pitre, oui, toujours Pointe-à-Pitre, sous un cyclone de 120 km/h, avec des feuilles de tôle qui se baladaient comme des lames de rasoir sous le visage. Et là, je vous raconte pas le truc, et au bout d'un moment, la DARS, donc le centre d'action sociale, était à côté du port. Et donc les eaux montaient, les enfants commençaient à se noyer, et donc elle, femme courageuse, quand je vous dirai le prénom, peut-être que ça vous dira un peu plus historiquement parlant, mais je peux le dire tout de suite, elle s'appelle Solitude. Donc le nom, déjà, il faut le porter en Guadeloupe, ce nom. Parce que c'est la fameuse mulâtresse d'octobre 1801, mai 1802, qui a été pendue en étant enceinte. Et pour revenir à Solitude que vous avez, qui est là, qui nous a quittés il y a 4 ans, les pompiers nous ont retrouvés sous une bagnole à côté du terrain de basket où Maryse Condé fait référence dans son bouquin « Le cœur à rire et à pleurer », qui est un bouquin que j'adore puisque je retrouve aussi quelque part dans ce livre. Et du coup, sous une bagnole, avec une bâche en plastique, un bébé qui chialait, parce qu'on pourrait dire ça comme ça, et une bonne femme d'une 40aine d'années, et puis dans Pointe-à-Pitre. Et ensuite, donc, j'ai grandi avec elle, et c'est dans ses jambes, comme dans ses jupons, enfin, j'ai grandi dans ses jambes, exactement, et c'est dans son... Comme je marchais tout le temps avec elle dans Pointe-à-Pitre, et les premières traces de graffiti que j'ai découvert sur la sécurité sociale dans le quartier de Bergevin, des slogans de l'UPLG, l'Union pour la Libération de la Guadeloupe, de l'ARC, dont on parlait tout à l'heure, donc tous ces groupes à l'époque qui étaient, on est en plein 1979, la lutte armée commence en Guadeloupe, mais vraiment la lutte armée. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à baigner dans cette lutte armée par mon oncle qui était indépendantiste. Et la famille Bourguignon est très impliquée à Pointe-à-Pitre aussi dans les luttes indépendantistes. Donc du coup, Solitude, je découvre les traces, les inscriptions indépendantistes avec elle. Et du coup, elle veut pas m'expliquer parce que elle-même déjà était impliquée en mai 67 dans la lutte pour l'indépendance et pour aussi surtout pour les conditions des travailleurs guadeloupéens à l'époque. Et donc, du coup, là, sachant tout ce que ça avait coûté comme vie à beaucoup de gens en Guadeloupe, elle refusait, encore une fois, on revenait à un état d'esprit qui, quelque part, c'était pas pour ne pas nous transmettre, c'était pour nous protéger quelque part, puisque la lutte, elle avait été très dure, très sanglante. Mai 67, on dit 80 morts, mais tout sans compter les gens qui ont été jetés dans le port, énormément, les gens qui ont été tués, les descentes qui ont eu lieu dans les ghettos de Pointe-à-Pitre, Boissard, Montbruno et autres, avec les fusils et les baïonnettes, pour certains. Donc, le soir, les... voilà. Et donc, cette chère grand-mère a voulu me protéger, mais malgré ça, c'est le fait que je sois avec elle, je découvre les premières traces et les premiers graffitis écrits sur les murs, je lui pose la question, elle veut pas me répondre, c'est mon oncle qui finalement me répond, me donne les codes, me transmet les choses, et du coup, la lutte armée commence. À l'âge de 9 ans, on s'est retrouvés sur... 1979, là. Je vous parle, je suis à Pointe-à-Pitre, je suis très content, je suis fier. Enfin, je ne sais pas ce que ça va mener, mais en même temps, on sent monter quelque chose. Et donc, du coup, mon premier acte héroïque a été de... comme beaucoup de copains à l'époque, on était là, y avait déjà les anciens, et nous, on était la jeunesse indépendantiste. Et du coup, dans cette jeunesse indépendantiste, on lisait des textes de Paul Niger le soir, au son du gros cas sur la mairie, et en fin de lecture, on montait et on enlevait le drapeau bleu en rouge sur tous les édifices de Pointe-à-Pitre. Donc, c'était comme ça et on agissait. Et ensuite, de fil en aiguille, les choses évoluaient. On se réunissait derrière le jet d'eau, qui était pour nous de Pointe-à-Pitre, qui était un point vraiment important. Et du coup, après, on agissait, on partait, et puis ben, quelques-uns d'entre nous sont morts, quand même. Voilà, et parce qu'il y a eu des actes, voilà. Et ensuite, après, on a vu arriver à Pointe-à-Pitre 1980-81, les vraies luttes armées, c'est-à-dire la gendarmerie, l'armée, et dans Pointe-à-Pitre, et en train de tirer à balles réelles sur les gens. Et ensuite, voilà, donc à partir de là, mes grands-parents, comme moi, je m'étais fait déjà quand même 2-3 arrestations, recherchées, j'étais pas rentré chez moi, bon, on était dans le mouvement, on le vivait, et on était fiers parce que on était Guadeloupéens, on était nés chez nous, et on avait pris conscience déjà de ce qu'on était. Par rapport à cette prise de conscience, c'est que moi, en 79, cette prise de conscience m'a permis de savoir qui j'étais, d'où je venais, et où géographiquement aussi, et puis ce que la France avait fait. Donc je parle d'esclavage, je parle de colonisation, je parle de départementalisation, et je parle après Bumidome et autres. Et ensuite, donc déjà moi à l'époque, ce qui était marrant, c'est que nous on allait à la bibliothèque Rémy Nézouta à Pointe-à-Pitre. Au lieu d'aller courir et sauter ou jouer au foot, ça nous intéressait pas trop. Nous, les gens, comprenaient pas pourquoi on voulait tout de suite aller chercher les bouquins qui étaient plus hauts. On arrivait et on demandait des choses que normalement, les bouquins qui étaient cachés, qu'on refusait de nous. Et donc, nous, on prenait l'échelle, on se faisait, on s'entraidait et on montait et on allait chercher les bouquins. Tous les samedis après-midi, on avait une bande que les flics sont venus d'ailleurs un samedi après-midi et ils ont fait comprendre qu'on n'avait plus le droit d'accès à la bibliothèque et en plus des flics blacks. Donc, ce qui était un peu moins rigolo. Et donc, du coup, de là, moi, je pars à Capesterre. D'ailleurs, j'y serai mercredi. Je pars à Capesterre faire l'école en créole. Puisqu'en créole, l'école en créole en Guadeloupe, à ce moment-là, c'est interdit. Complètement interdit. Jusqu'au jour, les gendarmes arrivent et détruisent notre école. Et là, on décide, bon, ben, on est en 82. Ils détruisent notre école et là, on décide carrément, on prend la lutte armée pour la lutte armée, on prend des bâtons, on prend tout ce qu'on trouve, et là on s'affronte pendant une heure et demie, à travers le carrefour de Capesterre, Sainte-Marie, tout ça, et puis c'est une chasse qui dure bien, voilà. Et du coup, moi je rentre pas chez moi le soir, puisque bon, ben ils ont les noms, en fin de compte ils sont arrivés, ils ont détruit l'école, mais ils avaient déjà tous les noms, tous les mecs qui fréquentaient l'école, tout le monde et autres. Donc du coup, je rentre pas chez moi. Bon, mes grands-parents sont un peu paniqués et autres. Donc du coup, ben quelques jours plus tard, mes grands-parents commencent à me faire part de la volonté, bon ben il faut que j'aille voir un peu ailleurs ce qui se passe. Donc je continue, je reste en Guadeloupe, 82, 83, mais je reste toujours dans la lutte armée et ça commence à vraiment devenir un peu très chaud. Et du coup en fin 83, début 84, mes grands-parents me réunissent. Mon grand-père qui est moi ce que j'ai eu la chance, je dirais, mon abandon m'a servi de retrouver des parents et de retrouver l'amour. C'est quand même bizarre de dire ça, mais c'est comme ça la vie, voilà. Parce qu'en fin de compte, mon grand-père, sa mère était blanche. Sa mère a connu l'apartheid à Pointe-à-Pitre. C'est sa mère quand même qui était commerçante, mais fifi. Moi, à 6 ans, en 76, j'ai connu ma grand-mère qui avait 96 ans. Regardez là, réfléchissez sa date de naissance. Et à 6 ans, je m'amusais avec elle comme une toupie dans les berceuses. Et les gens, les grandes tantes nous disaient « Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez !» Mais je lui dis « Mais non !» Et elle-même, elle disait « Non, laissez mes petits-enfants me faire tourner en créole. Laissez ces timouna faire moi tourner. » Et donc, du coup, voilà. Et donc, ça me fait réfléchir, parce que ce qui était marrant, c'est que cette grand-mère qu'on a connue, même ces vieux jours, qui nous racontait des choses, du côté de je parle de mon grand-père, hein, qui était, on va dire, mulâtre, blanc, et voilà, puisque sa mère était blanche. Et du côté de ma mère, qui est ma grand-mère, qui était la branche guadeloupéenne pure et dure. Voilà, militante, bourguignon, désirée, albéry, négrite et marbeuf. Voilà. Et donc du coup, après, mes grands-parents me réunissent. Et alors, ce qui était très bien avec eux, ce que j'aimais, malgré qu'ils savaient ce que je faisais, mes grands-parents tenaient à une... Enfin, moi aussi, je tenais à cette chose-là. Tous les samedis, avant de faire quoi que ce soit comme mouvement ou comme lutte, ou peu importe où on partait, à l'école à Capestero, je tenais à danser une heure de begin, de zouk, de merengue, de machin, avec mes grands-parents et surtout de jazz. Et pendant une heure, je savais que j'étais un voyou, donc je faisais vis-à-vis de mes grands-parents la bonne figure. Et donc mes grands-parents, tu peux aller maintenant. Et du coup, je partais, mais je partais avec la vraie envie. C'est comme si j'avais une bénédiction. Et jusqu'à un jour, cette bénédiction a suffi à me dire lors d'un déjeuner familial. Je m'en souviens, mes grands-parents me disent « Tiens, on déjeune ensemble ce midi, machin. » Je lui dis « Ok, pas de souci. » Je lui dis « Tiens, c'est bizarre. » « Ben non, finalement, t'as pris le billet. » Et là, on l'a pris sans retour. Moi, je lui dis « Ah bon ?» Je lui dis « Ah bon, pourquoi le billet ?» On est peut-être en avril ou mars, avril 1984. Et j'atterris quelques mois après à Paris, le 9 juin 1984. Et de là, commence l'histoire parisienne. Vous allez voir quelques photos de Pointe-à-Pitre. Voilà, ma ville. Et souvent, quand je regarde ma ville, je pense à cette chanson de Nougaro, Bidonville. Voilà. Et tout ça, ce sont des moments qui ont nourri mon enfance. Voilà, les luttes, les manifs et autres, et dans lesquels je voyais les choses, mais ça m'ouvrait déjà les yeux. Voilà. On arrête là. Et là, voilà, je me retrouve à Pointe-à-Pitre. J'aime beaucoup cette photo parce que c'est avec ma petite sœur. Et ma petite sœur, même si elle est née après moi, ou même si on a vécu un moment, mais quand on se retrouvait dans des moments particuliers, et jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai retravaillé cette photo pour elle. Et voilà, enfin, c'est Cynthia, voilà. C'est un moment de la Guadeloupe pour moi qui est vachement important. Et puis, les looks, quand je les regarde aujourd'hui, je me dis, c'est juste pas possible. Voilà. Et là, nous sommes dans les années 80, début des années 80, tout ce qu'on subissait, les premiers graffitis, le gong et autres. Voilà, Pointe-à-Pitre, les nuits bleues, voilà, et autres. Les décès de mai 67. Voilà, la première communion, mais moi j'ai trafiqué en forme de vaudouisme avec les pas et autres, j'ai changé, je me suis dit non, c'est pas ma religion, je vais te faire savoir laquelle ma religion que j'apprécie réellement. Voilà, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de mon enfance et puis ça fait partie de mon parcours. Jusqu'à arriver à Paris, voilà, on continue. Moi j'aime ma ville, j'ai beaucoup voyagé. Vu d'où je suis parti, parce que je suis né à la base de mes parents deux secondes. Je suis né de mes parents en Guadeloupe, dans le ghetto de Boissard, c'est-à-dire le vrai ghetto de Pointe-à-Pitre. Après, mes parents ne pouvaient pas me garder, ne pouvaient pas me conserver, parce que c'est comme ça. En fin de compte, j'ai été une source à embrouille entre mes deux parents. Bon, c'est comme ça, j'ai accepté la vie. J'ai été placé à la DAS, et ensuite, mes grands-parents, 1973, m'ont récupéré. Et ça, c'est les blocs dans lesquels j'ai grandi à Bergevin. D'ailleurs, les blocs Quake. Et donc, du coup, voilà, chemin faisant, Pointe-à-Pitre, pour moi, a été quand même une source d'inspiration, restera une source d'inspiration. Et c'est important parce que moi, la Guadeloupe m'a tout donné et j'ai l'intention de tout lui donner. Malgré tous les voyages que je fais dans le monde aujourd'hui depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de tout donner à ma Guadeloupe et à ma Pointe-à-Pitre. Et parce que je trouve ça... Et même mes amis d'enfance, hein, je vais vous dire, avant de vous parler de graffiti, tout ça, même mes amis d'enfance, j'ai quelques personnes qui sont là, qui ont pu le voir quand je suis à Pointe-à-Pitre. Moi, à Pointe-à-Pitre, même les amis d'enfance, ils me disent, il y a un truc, c'est que tu es parti, on t'a fait un coup de mytho, c'est-à-dire, moi, je m'en souviendrai toujours, le jour que je pars le 8 juin 84 à Pointe-à-Pitre, on avait l'habitude d'être sur le banc. Je dis à mes copains, par respect, hein, il y a l'oncle qui vient te chercher, qui est sapé, toi t'es sapé comme le jour du dimanche. Le mec, il se dit, tu vas où ? Moi, je leur dis, les gars, finalement, je m'en vais. Et les mecs, ils me croient pas, ils me disent, tu sais, les mecs, ils me retournent le dos et ils me disent, à demain. Et demain, ça s'est fini 17 ans plus tard. On s'est revus 17 ans plus tard. Donc le demain, il est plus long que même en Afrique, les lendemains sont pas aussi, sont moins longs. Et du coup, ben, je suis revenu. Et puis moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Pointe-à-Pitre, pour moi, c'est... Je sais pas. Il y a un truc, quand je reviens à Pointe-à-Pitre, pourquoi excusez-moi de m'étendre sur Pointe-à-Pitre, parce qu'il y a un truc pour moi qui est vachement important, c'est que quand je suis à Pointe-à-Pitre, j'ai peut-être fait Tokyo, Los Angeles, j'ai une belle femme, je suis en Italie, je fais des choses, j'ai visité. Mais je me dis, quand je suis dans cette ville, je me dis, mais tu sais, tu es ma chérie, rien n'est plus belle que toi. Et c'est bien vrai, parce que le seul truc qui me fait même, je dirais, bander à Pointe-à-Pitre, c'est je me refais tous les trajets que je faisais avec ma grand-mère. Et les gens ils me disent, mais c'est délire quand même, parce que tu connais tout à Pointe-à-Pitre, les gens te connaissent, la ville te connaît, les gens importants te... Je lui dis, ouais, mais ça, dans ma tête, c'est ma grand-mère. Voilà, solitude. Et avec elle, parce qu'elle m'a tellement donné, et puis rien que l'image, le pompier, je m'en souviens toujours, à l'âge de 12 ans, il m'a rappelé, il me dit, tu t'imagines, c'est toi, Francky, voilà, Bourguignon. Ah ben, c'est moi qui vous ai récupéré sous la bagnole, la 504 Peugeot, à l'époque, avec ta grand-mère. Je lui dis, ben, merci et autres. Voilà, maintenant on peut passer à la phase Paris. C'est pour ça que j'ai mis un noir et blanc. Allez. Mais, Chuck, deux secondes. L'histoire fait que je pense que quand on est connecté dans la vie, on est connecté. J'ai oublié de le préciser. Moi, j'ai quand même... pourquoi je parle de connexion ? Parce que le vaudou a été très important dans mon enfance. J'ai pratiqué et même le fait de pratiquer, parce que je trouve ça naturel quand on a une culture africaine. Moi, j'adore l'Afrique. J'ai été en Afrique plusieurs fois. Je me sens africain. Il y a cette connexion avec la terre africaine. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer Mandela, ce qui a été pour moi peut-être le plus grand honneur. D'ailleurs, c'est Quick, l'Américain, qui me dit, on peint chez Galizia. Il me dit, ouais, il faut penser aux autres, il y a d'autres légendes qui vont venir peindre. Je lui dis, mec, excuse-moi, ignorant, la seule légende qu'il y a dans notre communauté, c'est Mandela. Et là, boum! Il me dit, ah oui, c'est vrai que tu as finalement raison. Je lui dis, ouais, la seule légende qui a... Et Mandela était encore vivant. Voilà. Mais pour dire, c'est ce côté à l'Afrique, parce que pourquoi j'en reviens rapidement? Moi, quand j'ai découvert les traces et les graffitis à Pointe-à-Pitre, ça m'a permis de savoir les Caraïbes, les Antilles, notre histoire, l'Afrique, et puis l'Amérique du Sud. Et il n'y a pas de hasard, puisque la première toile que m'achète le Fonds National d'Art Contemporain, je parle du 11 septembre 1973 et du 11 septembre 2011. Le renversement de Salvador Allende par Kissinger, donc les Américains sont encore dans tous les coups foireux, et le 11 septembre 2011 et j'intitule la toile « À chacun son 11 septembre, il n'y a pas de jaloux ». Voilà. Et du coup, le FNAC, les gens du FNAC, du Fonds National d'Art Contemporain, viennent à l'atelier. Ils me disent « Oui, c'est bien, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la toile, machin, c'est tout ce qu'il y a comme mur, tout ce qui est écrit comme dans votre atelier, tous les slogans politiques. Parce que je suis pro-Bagbo, je suis pro tout ce qui est un peu l'ivoire, le nationalisme noir. Moi, ils me disent « Mais comment vous faites, machin ?» Je lui dis « Ben, parce qu'on est obligé de s'affirmer, monsieur. » Enfin, il me dit « Oui, nous, la toile, c'est l'acquisition du FNAC, mais est-ce qu'on peut reproduire votre atelier au Palais Royal ?» Je lui dis « Faites ce que vous voulez, mais du moment que les gens le voient, reproduire l'identique. » Je reviens en graffiti parce que quand j'arrive à Paris le 9 juin 84, à 9h, il y a toute la famille qui vient vous chercher à l'aéroport. Donc, toute la famille antillaise que vous allez laisser qui est en Guadeloupe, qui vous accompagne, et toute la famille qui est déjà là, qui vous reçoit. Moi, je me dis, putain, décidément, on est nombreux. Hein. Je pensais que j'étais tout seul. Et du coup, la famille vient vous chercher. J'ai mon cousin qui vivait déjà ici depuis 76, Yo. Donc, toute la famille vient nous chercher, on est content. Donc, on part chez une tante... comme il disait si bien, à 9h, on est peut-être à 11h au midi, vous mangez, mais vous dansez. Je lui dis, c'est marrant, eux, ils dansent pas le soir, ils dansent les journées. Mais c'est comme ça, ici, hein, dans les familles. Et du coup, donc, on danse, on mange et autres. Et dans l'après-midi, mon cousin, qui est déjà très vif, même trop vif, je dirais, me dit, bon, il va falloir que tu ailles te changer, là. Je lui dis, ben, t'as de quoi? Donc, moi, je réponds du tac au tac. Il me dit, ben ouais, ça tombe bien, parce que j'ai vu que Zekou, que t'es déjà, t'es au taquet, toi aussi. Donc, du coup, ce qu'on fait, on part chez lui, télégraphe, on passe derrière le squat des Africains qui était dans le jardin de Belleville, droit descend, on arrive, Adidas, de l'équipe de France, Nike, machin. On part à pied jusqu'à Saint-Blaise, Vitruve, et les mecs, au moment où on est là, en train de manger déjà des burgers. Donc, dans le centre commercial Défi, à l'époque, rue Saint-Blaise, rue Vitruve. Et du coup, après, les mecs me disent, mais il habite dans quel coin, ton cousin, il demande à mon cousin, il habite dans... Non, il vient de la Guada. Et les mecs, j'ai beau lui redire toute l'après-midi, je viens de Guada, eux, ils en ont rien à faire, pour eux, je suis un mythomane, je leur raconte des conneries. Donc, je leur dis, bon, ben, c'est merci pour l'adaptation, les mecs. Voilà. Et donc, je reviens à Chuck, et donc, on prend le métro, souvent avec mon cousin, je vois les premiers graffitis. Et là, je me dis, mais je comprends pas pourquoi ils font les graffitis ici, parce que là, on est en 84, il y en a très peu, quand même, pas tant que ça. Et en plus, j'habitais Alexandre Dumas, donc la ligne 2. Et du coup, on aperçoit quelques années après le terrain vague de la Chapelle, et qui émerge. Et là, je décide, au fur et à mesure de mes années parisiennes, je vois ce qui se passe, je comprends, je vois le hip-hop qu'on connaissait déjà quand même. Et on avait Canal 10 à l'époque en Guadeloupe, en 82-83, mais qui était une chaîne un peu plus ou moins américaine, mais qui nous voyait déjà des choses sur le hip-hop et autres, mais très peu. Et donc, du coup, bon, moi, je prends Chuck. Je commence à taguer Chuck en 86 exactement. 85-86, fin 85, début 86. Avant, c'est plutôt mon bahut, le rue de la Roquette, qui a servi d'entraînement. Jusqu'à ce que le proviseur est venu me voir, vous avec votre musique de barbare et vos écritures dans les chiottes, il va falloir que vous arrêtez. Mais en même temps, rue de la Roquette, il y avait quand même, c'était une rue assez hip-hop, pour pas mal de gens qui y habitaient, pas mal de gens qui se croisaient, puisque, ben, voilà. Et du coup, donc, je commence à taguer Chuck. Et puis ensuite, les choses se font. Mais c'est marrant parce que même si on pourrait me dire Chuck D ou Public Enemy ou tout ça, mais j'ai jamais voulu écrire le Chuck avec un S. Et vous verrez pourquoi ensuite. J'ai jamais voulu écrire avec un C, pardon. Vous verrez pourquoi. Et du coup, donc voilà. Voilà, là, c'est quelques photos de mon quartier. Et là, c'est la fameuse photo où on est avec le groupe concret d'ICM, où la fameuse photo où tout le monde est devenu un peu malade sur la photo, parce que la photo, si vous voulez, La photo, c'est pas le fait que dans ce métro qu'on est en train de taguer, on avait commencé un graffiti et après on l'a marave nous-mêmes, on l'a complètement cartonné. C'était pas le fait de faire un graffiti dans un dépôt qui était sans. Mais c'est quand même la qualité de la photo. Les gens qui sont venus faire la photo, c'est Marino Pignata Monti de l'agence Magnium qu'on rencontre dans l'après-midi. Qui nous dit oui, je suis venu faire un truc, mais bon, ça me prend la tête le sujet. Enfin bon, peu importe. Il faut qu'on fasse autre chose. Je lui dis bah 3h du matin, porte de Clichy, ben là tu vas faire autre chose. Et du coup, ben on sent quand même qu'il y a une pause, qu'il y a une lumière. Enfin, il y a quand même une qualité de photo. Et du coup, le type, ce qui lui arrive, comme par hasard, il obtient le premier prix avec les taggers et les éditions de la Martinière font double page, magazine photo et autres. On continue, on pourra en parler de jeunes, beaux et autres. Voilà.
Tu peux dire quelque chose aussi un peu sur la question des métros, parce que tu vas quand même
oui,
toi,
voilà,
vraiment
j'arrivais.
Avoir un focus sur
voilà.
la question du
après
métro.
La oui, effectivement, après la question du métro, ce qui était important, c'est que moi, j'ai aimé le métro, vraiment. Taguer le métro, cartonner le métro, défoncer le métro, tout ce qu'on veut, mais c'est parce que le métro, pour moi, est un champ d'expression... Je l'ai découvert, peut-être aussi, c'est peut-être le fait aussi qu'on, je connaissais pas le métro aussi, puisque c'était pour moi nouveau aussi, puisque par rapport à nos moyens de déplacement qui étaient en Guadeloupe et ensuite après à Paris. Et puis au fur et à mesure, le métro aussi a été un champ d'expression, comme on disait tout à l'heure, de trouver sa calligraphie, d'en s'entraîner, de styliser, de, après chacun a sa vision sur le tag, sur le graffiti, comme on a vu sur, comme il disait même Jet tout à l'heure, c'est, chacun a sa vision des choses, mais je trouve que faire danser les lettres, comme tu disais tout à l'heure, c'est très important, et même les mettre en mouvement, et peut-être qu'on a cette même chose. Moi, j'ai toujours été plus électro que rap. Voilà, et c'est marrant, peut-être c'est une question de génération aussi. Voilà.
Après, il y a quelque chose avec le métro, parce que moi, à l'époque, on les voyait, c'est quand même l'espèce de dramaturgie de l'entrée du métro dans la station, ouais. Quand il est couvert... Quand t'as cramé un métro, t'attends ton métro et arrive un truc. Ouais. Là, il y a quelque chose qui est quand même un espèce d'événement, en tout cas comme qu'a bercé une époque à Paris.
Oui, et c'est vrai.
C'est vrai que c'est l'arrivée de la. Le texte arrive et dans un dispositif différent qu'un mur quand même.
Oui.
Quelque chose
et
qui
puis ce qui était marrant, c'est que le métro, le fait de le cartonner, le fait de l'avoir comme champ d'expression, le fait de... Et puis, c'est un truc quand même que ça créait une forme de jouissance. On a l'impression que la rame appartenait. Et puis, même, on pouvait se dire, c'est maligne. Voilà, façon de dire, mais enfin, c'est un peu, exagéré ou... c'était un peu, comment dire, la folie des taggeurs ou des graffiteurs, peu importe.
Bah, t'étais quand même quelqu'un de la ligne 2.
Oui, bah oui, je le dis, c'est pour ça. La ligne 2, oui, voilà, j'étais quelqu'un de la ligne 2, je le revendiquais. Et puis, mais en même temps, entre la ligne 2, la ligne 9 et la ligne 13, j'habitais rue Alexandre Dumas. Et donc, je pouvais partir par la ligne 2, le soir par rentrer, laisse là, tout à l'heure, parce qu'on va revenir à Basalte. Et tout ce qu'on a fondé, ensuite, tout ce qu'on a fondé, même dans le tag, on le retrouve après dans le graph. Et puis le DCM aussi, ce qui est important, le groupe qu'on a fondé, DCM, qui a été au début en 86, exactement en 87, exactement. On a eu une famille avant d'avoir un groupe. D'habitude, c'est plutôt le contraire. On a un groupe et on devient une famille. Mais nous, on s'était retrouvés plutôt 11 Antillais. Et ensuite, après, on a décidé de monter ce groupe qui était Délire Copain Mortel au début et après Dope Criminal Minded. Nous, on choisit notre chemin, mais on peut pas choisir le chemin de ses copains. Ensuite, DCM a été pour moi un très bon groupe, enfin personnellement, mais en même temps un très bon groupe et je marchais toujours en marge du groupe. Parce que je sais pas pourquoi, j'aimais être en marge de mon groupe parce que je savais c'était qui mes copains, mais je savais pas ce qu'ils faisaient en dehors. Voilà. Et donc moi, quelque part, ça me travaillait pas tant que ça, mais j'aimais être en marge. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un qui aime bien observer. Voilà. Et donc du coup, après 10 ans, ouais, jusqu'à 89, on crée une rencontre avec Banga, Bobo et autres, on crée Basalte. Basalte, quand même, le qui est la pierre volcanique quand ça s'éclate, que ça devient de toutes les couleurs, et quand ça se durcit, au fur et à mesure que ça se refroidit, ça devient noir. C'était pour nous important de créer quelque chose, un creuset caribéen, même au niveau du graffiti.
Il reste cinq minutes.
Et du coup, tu peux faire tourner. Et du coup, ce qui était important, basalte, quand même, qui est devenu quelque chose de vachement important, parce que je m'en souviens quand la plupart des groupes les gens ont quitté Paris à une période. Nous, sur la scène du graffiti française, on a vachement été représentés. Et puis même, le moment de Basalt aussi qui a été assez intéressant, ça a été l'exposition 90-91 sur au Palais de Chaillot, Musée des Monuments Français. Voilà. Après, le graffiti, pour moi, ce champ d'expression aussi qui est très important, parce que ça m'a permis une émancipation sociale et artistique. Et de part aussi voyager dans pas mal de lieux, de connaître pas mal de gens, de nourrir pas mal de rencontres. Et puis même, entre le début du tag, quand je suis arrivé à Paris, et ce que je fais aujourd'hui, je veux dire, je me sers de ce travail du début et de ce travail de cette vie en Guadeloupe, voilà, pour faire ce que je fais aujourd'hui et qui, quelque part, est une vraie émancipation pour moi parce que je le vois, parce qu'en ce moment, surtout, les institutions me font un vrai plaisir, me dire, finalement, vous êtes comme peut-être comme du vin, comme ils disent, mais en tout cas, le travail fonctionne. Voilà. Et je prends un exemple sur ce, on parlait de Bumidom et autres, cette série qui s'appelle Diaspora Citadine. Je vais dans une usine EDF dans Vincennes et autres. Je récupère des plans de l'époque où travaillaient d'ailleurs les Antillais, toutes ces, voilà. Tu peux laisser tourner. Mais toujours cette écriture hein, qui est là, qui me lâche pas. Et puis cette écriture aussi très toujours l'émeute et la dignité, tout en mouvement, tout ce travail. Et puis c'est important aussi parce que moi je trouve aussi, j'ai même pas besoin de parler de mon identité noire ou afro quelque part. Elle vit en moi, elle est là, elle sera au passé, au présent comme au futur, parce que moi, tout ce que j'essaie de faire aujourd'hui, j'essaie de réécrire notre histoire qu'on a brûlée, comme dans Black Manuscript, ça tombe bien. Au nom des miens, toute une série en noir et blanc. Mais de temps en temps, et de moins en moins, je me laisse moins absorber par la couleur, je reviens au fondamental, que sont le noir et le blanc, deux nuances et non deux couleurs. Et à partir de ça, créer aussi.
Cette image, moi, je trouve que c'est aussi fort de la mettre en relation avec la première que tu nous as montrée, qui est le dessin de la grand-mère.
Ouais, voilà, complètement.
Comme s'il y a une espèce de retour.
Voilà. Mais moi, totem des malamentations. Voilà, on arrête là, juste. Alors, cette œuvre en noir et blanc, c'est un hommage, tu en parlais tout à l'heure, parce que je suis un fanat de jazz, un inconditionnel, et c'est un hommage à Sun Ra, l'inventeur du jazz expérimental, 1910, l'Alabama. Johannesburg, les gens se demandaient qu'est-ce que je foutais, mais bon, on est 11h du matin, le mec qui tag, et je lui dis, et j'adorais Johannesburg.
On va devoir s'arrêter là, voilà, Chuck.
On a fini.
Parce que si moi, tu me laisses là, je passe la journée à regarder.
Voilà, merci à toi.
Non, mais...
Ça, c'est juste pour finir. C'est la dernière œuvre réalisée en 2019 pour la Biennale de Venise à la Fondation Tétis. Voilà.
Pour dire aussi que t'as fait aussi une œuvre. Oh.
Et ça, c'est mon fameux copain. On est l'amitié de longue date parce que dès que j'arrive en Guadeloupe, il vient de nous rejoindre jeudi soir. Voilà, Elie de Mota, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, juste pour finir, parce que Elie de Mota, j'ai apprécié le mai 67, le gong et tout ça, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la Guadeloupe. Et même si on parlait de fonctionnaire tout à l'heure avec Malin, c'est quand même un mec très cultivé et il sait ce qu'il veut. Et à travers le mouvement LKP, je pense que LKP, c'est eux qui ont été là quand a démarré tout le problème autour du vaccin et du Covid. Ça a démarré le 21 novembre 2020 à l'aéroport de Pointe-à-Pitre avec Elie de Mota et je suis venu les rejoindre. Merci.
Merci beaucoup, Chuck. Bon, là, on a eu beaucoup de nourriture. Merci, Jay. Merci, Chuck. C'est vraiment super riche. Là, je pense que vous allez vous faire embaucher comme professeur de culture urbaine ici. Mais en tout cas, il y a une belle manière de...
Merci à vous.
De montrer Paris. On va se faire juste une petite pause café pour la suite du programme, mais on pourra revenir sur ce qu'on a vu. Mais voilà, moi, je trouvais ça aussi vraiment, vraiment précieux. 10 minutes. C'était vraiment précieux, en tout cas, à travers ce que vous proposez, de voir comment finalement il y a une espèce de circulation de vos propres identités graphiques, mais aussi histoire dans les formes. Et c'est vraiment fort et c'est vraiment aussi très émouvant.
On l'a dit, on me la prend taxi. On me la dérive, j'arrive. Les vrais entrés en dépôt là, pas vrai personne n'en dit dans là. Toto, to, to, en premier bureau.
Pompier, partez là.
Toto, to, to, en deuxième bureau.
Secrétaire, partez là.
Toto, to, to, en troisième bureau.
Compta, partez là.
C'est là, non, me l'a constaté. Entreprise là, déjà voyagé. Oh là, l'État, t'es sorti plus, saisi tout outils.
Confier, confier.
Oh là, l'État, t'es sorti plus, saisi tout outils, mes amis.
Confier, confier.
Oh là, l'État, t'es sorti plus, saisi tout outils.